Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Kiosque, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Candy Lo. On aura ensuite trois petites chroniques des éditions Kiun, avec la chronique du volume 2 de Roji, la chronique du volume 2 de Relife et la chronique du volume 6 des Fleurs du Mal. On aura ensuite un point sur les sorties manga de la semaine et comme ça fera déjà beaucoup, on finira l'émission avec une petite actualité au Japon avec après un séisme près de la centrale nucléaire de Fukushima, le rejet en mer d'eau qui a été suspendu. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Selfie Trick de Age of Life et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Candy Lo. C'était Edge of Life avec la chanson Selfie Trick. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Candy Lo ou Lo Oyam, de son vrai nom Lu Hyo-in. Donc c'est une actrice, compositrice, parolière, personnalité de télévision et chanteuse de pop-rock hongkongaise qui est née le 18 octobre 1974. Elle est donc âgée de 49 ans. Elle est en activité depuis 1998 et fait partie du label 3721 Productions depuis 2017 et de l'agence Gwangna Culture Media. Elle a également fait partie des labels Sony Music Entertainment Hong Kong de 1998 à 2006, Wow Music de 2007 à 2011 et What's Up Music Limited de 2014 à 2015. Donc avant d'entamer sa carrière en solo, Candy Lo était la chanteuse du groupe hongkongais Black & Blue. En 1995, Black & Blue réalise leur premier album, Hoping Just One Day. L'année suivante, leur second album est produit. Les chansons sont principalement chantées en anglais, mais avec l'accord de leur label, Candy Lo commence à écrire des paroles en cantonais pour que davantage de leurs fans puissent les comprendre. En 1998, Candy Lo signe chez Sony, ce qui marque le début de sa carrière en solo. Son premier CD réalisé est un EP intitulé Batsui Yu Yunmei Do Opa, pour lequel elle remporte un Golden Award. Elle réalise par la suite 8 autres albums et en octobre 2008, elle sort son troisième EP, Elle, avec des titres chantés en mandarin. Candy Lo n'est pas seulement une chanteuse, elle est aussi actrice. Elle a notamment joué en 2000 dans le drama What is a Good Teacher et en 2002 dans If You Care ou encore dans Yuan Biao's No Problem 2. Elle apparaît également dans le film d'horreur The Eye. Donc côté discographie, elle a sorti un total de 16 albums. Le premier, Unnecessary to Want Perfect Can Be Terrible, qui est sorti le 1er mars 1998, et le dernier, Nourri, qui est sorti le 19 juillet 2012. Elle a sorti un best album, Impossible Not to Love, The Best of Candy Lo, qui est sorti donc le 5 juillet 2007. Une compilation, Eiffel Yun Oi, le 10 décembre 2001. Un live album, Candy Lo True Music First Flight Live 2003, qui est sorti le 18 juillet 2003. Et enfin, elle a sorti un single, Elle, qui est sorti donc le 23 octobre 2008. On va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons de Candy Lo. On commence avec Xiao Nian To et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Rosie.
自己就很容易，很容易要求自己。
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Candilo avec la chanson Tu Anjan. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Roji. Donc je rappelle que c'est un kodomo de genre aventure, fantastique, tranche de vie qui a été écrit par Kotobuki Keisuke et traduit par David Le Quéré. La version française est parue aux éditions Kiun dans leur collection Kids avec 11 tomes qui terminent la série. Et ce volume 2 est sorti le 21 mars 2013 au prix de 9,65€. Donc le résumé de ce tome, à Akamishiro, la vie suit tranquillement son cours. Tranquillement, pas si sûr. Alors qu'elle recherche un peu d'ombre, Yuzu, Karin et Azusa découvrent une mystérieuse galerie. À l'intérieur, une étrange gravure les attend. Aurait-elle un lien avec tous les phénomènes inexpliqués qui ont lieu en ville depuis quelques temps? Une chose est certaine, nos détectives en herbe ne sont pas au bout de leur surprise. Donc dans la ville de Kamishiro, la vie de Yuzu, Karin et leurs amis s'avère très mouvementée. Les enfants ne cessant pas de s'inventer de nouveaux jeux et défis, ce qui les amène petit à petit à faire face à des événements inexplicables. Dans ce deuxième tome, le fantastique continue de s'immiscer par petites bribes entre les nombreux délires de notre bande de petits héros. Keisuke Kotobuki alterne ainsi des chapitres très simples et plus classiques, et des petites histoires à tendance merveilleuse plongeant toujours un peu plus les enfants dans les mystères inexplicables que renferme leur ville. Vous assisterez donc entre autres à une petite enquête très basique dans le premier chapitre, puis à la mission d'une Yuzu improvisée babysitter auprès d'une gamine infernale, ou encore à une partie de jeu de loi géant sans queue ni tête, tout ceci quand le fantastique ne revient pas au détour d'une forêt dotée d'une légende, de la poussée soudaine d'arbres un peu partout en ville ou de la présence de cette petite déesse qui semble suivre nos héros. A l'instar du premier volume, ce sont les dessins de l'auteur qui apportent principalement son charme à la série, toujours simple mais coloré et porté par les bonnes bouilles caricaturales des enfants, Roji possède un certain charme graphique, si tant est que l'on adhère également au fond, toujours présent mais assez minimaliste, même si ce minimalisme se ressent moins que dans le premier tome. En tout cas, l'ensemble sert plutôt correctement l'ambiance agréable et insouciante recherchée et parvient à mettre un tant soit peu au second plan les grosses lacunes des histoires, où l'on trouve à nouveau parfois une exploitation trop pauvre du concept et des personnages, le chapitre du babysitting par exemple, des conclusions expéditives voire inexistantes, donc encore ce fameux babysitting, ou même des chapitres allant allègrement dans le n'importe quoi. Sur ce dernier point, le chapitre du jeu de loi est le meilleur exemple. On se demande comment Juzo a pu préparer tout ça, en plus en pleine nuit, et sans que ses parents ne captent rien. Pire, le chapitre, s'il arrive à un moment logique par rapport au déroulement des événements, casse un peu à ce moment précis l'ambiance plus énigmatique qui venait d'être instaurée autour de la petite déesse et des interrogations grandissantes des enfants. Et justement, parlons-en de ces interrogations qui arrivent enfin. Après avoir déjà assisté dans le tome 1 à bon nombre d'événements bizarres, nos héros commencent enfin à réellement se poser des questions. Il leur aura fallu du temps, mais cette fois-ci, ça y est, la seconde moitié de ce deuxième tome semble enclencher petit à petit la vitesse supérieure, en insistant plus sur la présence fantastique et les apparitions de la déesse. L'auteur nous offre même une petite explication sur le nom de la ville, et fait enfin apparaître un personnage adulte un minimum consistant, en la personne de la grand-mère de Yuzu et Karin, qui reste toutefois au second plan, mais est le premier adulte qui semble avoir vaguement conscience des choses bizarres se déroulant dans la ville. Cette présence adulte est encore très secondaire, mais c'est quelque chose qu'on attendait. Jusque-là, entre les parents de nos nombreux héros qui sont absents et semblent laisser vagabonder leurs enfants, et les habitants qui restent transparents même quand leur ville est assaillée par des gros bouleversements bizarres comme la poussée d'arbres un peu partout, la transparence des adultes laisse circonspect, d'autant que la vivacité de l'univers en prend un coup, car là, on a régulièrement l'impression que Kamishiro est une ville morte. Une nouvelle fois, Roji doit donc beaucoup à ses dessins en couleurs mignons, amusants et agréables, car du côté des histoires, ça reste très inégal et simpliste. Heureusement, les interrogations plus persistantes de nos jeunes héroïnes et quelques débuts de révélations sur les bizarreries de Kamishiro apportent dans la deuxième moitié du tome un petit coup de boost qui donne bon espoir pour une suite moins inégale. Voilà, donc je rappelle que Roji était paru aux éditions Kiun. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Neon Sign Stomp, l'opening du drama River's Edge Okawabata Tanteisha, interprété par Ego Rapping, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Relife. We'll be right back. Donc c'était Ego Wrapping avec la chanson Neon Sign Stomp qui est servie d'opening pour le drama River's Edge Okawabata Tanteisha. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Real Life. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre comédie, drame, romance, vie scolaire, science-fiction, tranche de vie qui a été écrit par Yayo Iso, traduit par Anne-Sophie Thévenon pour la version papier et Clément Lollet pour la version numérique et une série qui a été prépubliée dans le Comico. La version japonaise est parue aux éditions Taibun Kudo avec 15 tomes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Daily Toon, donc pour le numérique, et Kiun pour le papier, avec également 15 tomes reliés. Ce volume 2 est paru le 18 août 2016 au prix de 9,65€. Donc le résumé de ce tome, pour Arata, pas facile de se remettre dans le bain. Les vieilles habitudes ont la vie dure et le programme de terminale est bien loin. Bref, les premiers contrôles de l'année ne sont pas une réussite, sans compter le savon magistral que lui passe son professeur principal en trouvant des cigarettes dans son sac. Heureusement, le jeune homme fait rapidement connaissance avec plusieurs élèves de sa classe, dont Kazuomi Oga, Rena Karyu et Chizuru Ishiro. Cette dernière, extrêmement timide, a beaucoup de mal à se faire des amis. Notre redoublant décide donc de lui donner un coup de pouce, mais la tâche promet d'être ardue. Donc après un premier tome vraiment séduisant qui nous avait fait ressentir un véritable vent de fraîcheur, on attendait ce second opus de pied ferme. Eh bien, on ne sait pas trop quoi en penser. On retrouve le même schéma, cette même légèreté, cette même fraîcheur, mais mis à part quelques séquences vraiment amusantes, le contraste entre l'âge réel d'Arata et celui qu'il endosse à nouveau n'est pas si flagrant, et en dehors de ces quelques moments où l'intrigue principale demeure présente, on se retrouve avec des tranches de vie de lycéens, ni plus ni moins. Donc certes c'est amusant, d'autant que l'auteur manie correctement les situations et l'humour qui va avec, mais était-ce ce qu'on attendait de cette série? Uniquement des tranches de vie de lycéens. Donc on espérait clairement plus, et donc ce second volume laisse perplexe et déstabilise. Il ne satisfait pas totalement. C'est un peu comme si la série nous avait vendu une trame et une intrigue très spécifiques pour nous attirer, tel un prétexte, pour ensuite nous proposer quelque chose de très classique qu'on a déjà vu tant de fois. Ce n'est donc pas déplaisant, mais ce n'est pas ce qu'on attendait. Il reste quelques grands moments qui feront rire, tels que les premiers tests sportifs où Arata, bien qu'ayant retrouvé son corps d'adolescent, n'a pas fait de sport depuis 10 ans, et autant dire qu'il est plus que rouillé. Mis à part cet humour efficace, on découvre de nouveaux personnages et on s'attarde un peu sur eux, ainsi que sur les intrigues oscillant entre relations amicales et relations amoureuses de ces derniers. Ce qui reste au point de départ, c'est le malaise que ressent Arata par rapport à ses jeunes filles, lui qui n'est plus si jeune, mais qui n'est pas vieux non plus, rappelons qu'il n'a que 28 ans, mais il semblerait qu'au Japon, passé l'adolescence, notamment dans les mangas, on soit périmé. Mais ce qui continue d'être saisissant, c'est l'ambiguïté qui se dégage de ce titre. Bien que léger et amusant, on a le sentiment qu'on peut basculer dans quelque chose de plus grave très rapidement, ce qui provoque un malaise à différents moments du tome. C'est étrange, mais assez agréable comme sensation. À tout moment, on se dit que la limite peut être franchie. Quoi qu'il en soit, difficile avec ce second tome de se faire un véritable avis sur la série, puisqu'il n'a pas véritablement répondu aux attentes du premier, tout en demeurant très agréable à lire. Va-t-on rester dans cette veine de simple tranche de vie d'ado, ou va-t-on se recentrer sur le pitch de départ et sur ce que cela implique? Peut-être aurons-nous la réponse dans le troisième tome. Voilà, donc je rappelle que la série Real Life est à retrouver aux éditions Kiun, donc une série terminée en 15 tomes. On va s'écouter tout de suite le quatrième ending de l'anime Real Life, c'est Oni de l'Arc-en-Ciel, et on revient juste après pour les sorties manga de la semaine.
Yeah.
Donc c'était l'arc-en-ciel avec la chanson Oni, qui est servie de quatrième ending pour l'anime Relife. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 20 mars avec chez Mangetsu le volume 21 de Ao Ashi, le volume 4 de Kaiju Defense Force et le volume 11 de Ken Fist of the Blue Sky, la réédition 2021. Chez Crunchyroll, on aura la sortie du volume 8 de Call Game, chez Glénat le volume 6 de Chojin X, le volume 4 des saisons d'Ogishima, le volume 10 de Pour le Pire, le volume 1 de Tokyo Revengers Letter from Keisuke Baji et le volume 29 de Tokyo Revengers. Chez Panini, on aura la sortie donc du coffret collector de Demon Slayer avec le volume 7 plus le roman Le Train de l'Infini. Et on aura également la sortie du volume 4 de Mars, l'édition Deluxe. Chez Pika, on aura la sortie du volume 9 de la version remaster de Dreamland, le volume 28 de Eden's Zero, le volume 8 de Evans Design Team, le volume 6 de How I Married an Amagami Sister, le volume 19 de Kaguya-sama Love is War, le volume 4 de Miss Phantasm, le volume 23 de Pumpkin Scissors, le volume 3 de The World of Summoning, le volume 2 de Thunder 3 et le volume 15 de To the Abandoned Sacred Beast qui sera le dernier tome de la série. Chez Delcourt Tonkam, on aura la sortie du coffret avec les volumes 3 et 4 de Hikariman. Chez Nobinomi, la sortie du volume 15 de Horimiya. Chez K-Books, on aura la sortie du volume 1 de L'amour est une illusion. Le volume 4 de The Beginning After the End. Et le volume 1 de What's Wrong with Your Online Life. Et enfin, chez Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 1 de No Manga, No Life. Pour jeudi 21 mars ensuite, on aura des sorties chez Akata avec le volume 3 de Black Rose Alice, le volume 4 de Cherry Magic qui sera disponible en édition normale et en édition collector, le volume 2 de Fend le Vent, le volume 1 de La Concubine Rebelle Chronique du Pays Radieux et le volume 9 de Sasaki et Miyano. Chez Mana Books, on aura la sortie du volume 2 de How to Make Delicious Coffee, le volume 5 des 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, le volume 8 de Sakura Wars et le volume 4 de Yokai Wars. Chez Kotoon, on aura la sortie du volume 3 de Itaewon Class et le volume 2 de Mon Vœu le plus sincère. Chez Michel Lafon, on aura la sortie de l'intégrale collector de La Peste. Chez Dynamite, le volume 1 de Mikami Cougars Chronicles et le volume 1 de Redhead X Brunette. Et enfin, chez Omake Books, on aura la sortie du coffret intégral de Purgatory Girl. Pour vendredi 22 mars, ensuite, on aura chez Meian la sortie du volume 4 de Apparently Disillusioned Adventurers Will Save the World, le volume 4 de Demon Lord Retry, le volume 3 de Hellmod, les volumes 3 et 4 de One Half of a Married Couple, les volumes 1 et 2 de Silver Plan Ma Seconde Chance, les volumes 9, 10, 11 et 12 de Sleepy Princess in the Demon Castle, le volume 4 de Tear Moon Empire Story et le volume 3 de The Most Heretical Last Boss Queen qui sera le dernier tome de la série. Chez Ototo, on aura la sortie du coffret avec les volumes 9 à 12 de Bungo Stray Dogs et on aura la sortie du volume 3 de Sword Art Online Progressive Arc 3 Scarzo of Deep Night. Chez NoF Crafts, on aura la sortie du volume 3 de Harlequin, le volume 2 de I Want to See You Shy, le volume 5 de La Plus Grande Jaï ne perd jamais, le volume 2 de Party Boy Kongmin et le volume 5 de Tonikaku Kawaii. Chez Claire de Lune, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Intrépide Confidence à la Lune, chez Mao Édition, le volume 1 de La Voyageuse de 1934, chez Imo, le volume 1 du Cadavre Vivant et le volume 1 d'Un Voyage à l'Asile, chez Taifu Comics, on aura la sortie du volume 1 du Mari du Yakuza. Et chez Kana, on aura la sortie du volume 1 de Myrtis, la sortie du volume 21 de Naruto l'édition Hokage et la sortie du volume 28 de Seraph of the End. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour dimanche 24 mars avec chez Anna le volume 1 de Comment lier nos destins, les volumes 1 et 2 de Disparaît de ma vue, le volume 2 de Happy of the End, le volume 1 de Je te donne la moitié de moi, les volumes 1 et 2 de La bête qui voulait être domptée, donc une série qui sera terminée avec ces deux tomes. On aura le volume 5 de La cage de la menthe religieuse qui sera également le dernier tome de la série et on aura la sortie du volume 1 de Notre Chemin et le volume 1 de Soleil d'Hiver. Voilà, c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Voice de Hail the Moo. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 6 des Fleurs du Mal. C'était Hail the Moo avec la chanson Voice. On passe maintenant à la chronique du volume 6 des Fleurs du Mal. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame, mystère, psychologique, romance, vie scolaire qui a été écrit par Oshimi Shuzo et prépublié dans le Besatsu Shonen Magazine. La version japonaise est parue aux éditions Kodensha avec 11 tomes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Kiun avec également 11 tomes. Ce volume 6 est sorti le 21 septembre 2017 au prix de 6,95€. Donc le résumé de ce tome, prise au piège de son rôle de petite fille modèle, abandonnée par celui qu'elle aime, Nanako est au bord du désespoir. Mais quand elle se jette sur Takao dans la cabane au bord de l'eau, il la repousse encore une fois. Alors que le garçon s'enfuit, il aperçoit une lueur au loin, son refuge est en feu. Avec ce petit tas de cartons, ce sont les rêves de Takao qui partent en fumée. L'incendie n'aura épargné qu'une seule chose, un carnet rempli de projets de vandalisme et de profanation, oublié par son propriétaire, mais preuve irréfutable de sa culpabilité. Donc le refuge qui permettait à Takao et Sawa de s'évader, d'approcher l'autre côté, a été réduit en cendres par une Nanako déboussolée, meurtrie de voir celui qu'elle aime s'éloigner, même après avoir été prête à lui offrir son amour et son corps. Suite à ce dramatique incident, Sawa s'éloigne et, quelques jours après, la police rend visite à Takao, après avoir retrouvé un indice intact sur les lieux de l'incendie. L'étau se resserre donc sur Takao, qui peut maintenant difficilement nier sa culpabilité dans l'affaire de l'incendie. Justement, tout ce volume est porté sur l'absence d'échappatoire pour le protagoniste, les chaînes qui le lient à cette réalité qu'il aimerait tant rejeter, pour atteindre l'autre côté. Il demeure alors une tension palpable, un malaise bien présent sur l'ensemble du tome. Rendu coupable de délits condamnables et insensés aux yeux du grand public, Takao ne peut plus faire machine arrière et l'ultimatum que vont lui imposer ses parents en rajoutera une couche. Pour le lecteur, difficile de nier l'impasse dans laquelle se trouve le héros. En fait, tout porte à croire que ce tome amène la série vers son dénouement, mais un dénouement pessimiste qui dépeindrait la société comme une sorte de dictature de l'âme. Pourtant, c'est seulement le premier arc qui approche de sa conclusion, une fin qui s'annonce riche de sens, comme de coutume dans la série. C'est donc l'heure des grands coups d'éclat pour la plupart des personnages. D'abord Nanako, dont le rôle est toujours aussi fort dans ce tome, puisqu'elle symbolise ce que Takao n'est pas. Quelqu'un faisant marche arrière et acceptant finalement ce monde de cafards. L'opposition entre Nanako et le héros sonnerait presque comme des adieux, rendant leur scène plus efficace et ancrée dans le malaise. En parallèle, le retour de Sawa amène doucement l'arc vers son climax, un dernier coup de maître qui symbolisera la fin du duo. Viennent alors deux ambiances brillamment plantées dans le récit. La première, grave, accentuant la gravité de la situation dans laquelle se placent les deux héros, qui ne sont plus tellement loin de gagner un aller derrière les barreaux. La tension atteint donc son paroxysme, surtout sur les dernières pages du tome, et il est difficile de savoir sur quelle situation tout cela va déboucher. Puis il y a la tristesse, car sur cette fin d'arc, le constat de Shuzo Oshimi est incroyablement pessimiste, les deux caractères particuliers que sont Sawa et Takao n'ayant pas été compris du reste du monde, et tous deux se rendant progressivement compte de l'impossibilité d'atteindre l'autre côté. En somme, la fin nous narre l'impossibilité de s'éloigner des codes, au risque de courir à sa perte, et une opposition flagrante entre l'adolescence et l'âge adulte, étape où les rêves se meurent pour laisser place à la banalité. Le plus frustrant reste alors la conclusion du tome qui intervient à un ou deux chapitres de la fin de l'arc. La tension est à son paroxysme, nous ne sommes pas très loin de vie mise en jeu, et il semble difficile que Takao et Sawa s'en sortent indemnes cette fois, tant on est loin d'une simple affaire de vol de sous-vêtements. On redoute donc la suite, mais on reste impatient de voir comment le récit rebondissant ouvrira son sujet ou le fera évoluer. Le récit de Shuzo Oshimi, brillant, est donc loin de se terminer, et c'est tant mieux. Aussi ne pourrais-je que conseiller d'avoir le 7e tome sous la main avant d'attaquer ce 6e opus, histoire de pouvoir tout enchaîner d'un coup. Voilà, donc je rappelle que la série Les Fleurs du Mal est à retrouver donc aux éditions Kiun, une série terminée en 11 tomes. On va pouvoir s'écouter tout de suite le 4e opening de l'anime Aku no Hana. Donc c'est Aku no Hana Gunma Ken Kiryu Shi, interprété par Uchujin. Et on viendra juste après pour finir l'émission avec une actualité au Japon.
ありふれた不穏な影が空をかけていく何もない日常だけが転げ落ちていく知りたくない妄想だけが錆びついていく救い出す暴かれる作り出していく時綱渡り一人だと言って閉じ込める何にもないここではない不確かだ目も耳も鼻も口も塞ぐ必ずあるんだ鋼鉄
色は虚像し黄色のよう
Asian Bubble. Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Elisa avec la chanson Ikari qui a servi de premier ending pour l'anime Nabali no O. On va maintenant finir l'émission avec une petite actualité au Japon. Donc l'opérateur de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi, au nord-est du Japon, a annoncé vendredi dernier avoir suspendu par précaution son processus de rejet en mer d'eau traitée du site, après qu'un séisme de magnitude 5,8 s'est produit à proximité. Ce processus a repris plus tard ce vendredi, a ensuite précisé à l'agence France Presse, un porte-parole de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Donc TEPCO a commencé le 28 février une nouvelle opération de déversement dans l'océan Pacifique de l'eau stockée sur le site de la centrale, traitée évidemment au préalable pour éliminer la plupart de ces substances radioactives, à l'exception du tritium qui n'est dangereux qu'à haute dose concentrée. Cette quatrième tranche de rejet en mer depuis l'été dernier s'est terminée dimanche selon le calendrier initial. Donc après le séisme survenu vendredi à minuit 14 heure japonaise et donc jeudi à 16h14 à Paris, au large des côtes du département de Fukushima, qui n'a pas provoqué de tsunami, donc je cite, « Nous avons pu confirmer à distance qu'il n'y avait pas d'anomalie sur les installations pour diluer l'eau tritiée et l'évacuer dans l'océan », a fait savoir TEPCO sur le réseau social X. Par précaution, nous avons suspendu les opérations de ces installations conformément au protocole opérationnel prédéfini, a ajouté TEPCO. Peu après le séisme, l'autorité japonaise de réglementation nucléaire, la NRA, avait également annoncé sur son site qu'aucune anomalie n'avait été identifiée sur les installations nucléaires à Fukushima. Donc, située au bord de l'océan Pacifique, la centrale de Fukushima Daiichi a été dévastée en 2011 par un gigantesque tsunami provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9 au large de Fukushima. Cette centrale est en cours de démantèlement, un chantier colossal et extrêmement complexe qui devrait encore durer plusieurs décennies. Pékin a vivement critiqué le rejet en mer d'eau traitée de la centrale, bien que ce processus ait été validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. La Chine a répliqué en suspendant toutes ses importations de produits de la mer japonais depuis l'été dernier, et a été imité par la Russie quelques mois plus tard. Voilà, du coup c'est ce qui va conclure cette émission. On va pouvoir s'écouter donc pour la toute fin la chanson Atonality de M. Grief. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouve lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
「振り止まない」